Merci Philippe et merci donc l'organisateur pour cette invitation. Alors je me réjouis, c'était déjà fait, de l'intérêt croissant pour l'œuvre de Kojève, qui était plutôt identifié comme un traducteur de Hegel en France, et il y a un intérêt croissant maintenant pour non seulement le commentateur et l'initiateur des philosophies évidemment les plus importantes de la tradition, mais bien pour le philosophe original qu'il a été, et qui s'est attaché à élucider ces phénomènes sociaux et politiques importants que sont notamment l'autorité, et le droit. Alors, ma communication n'abordera qu'un aspect limité de ce vaste ouvrage, en se concentrant, en revenant, c'est un thème récurrent du colloque, mais je pense que c'est des difficultés et un des intérêts du livre, sur l'approche que j'ai vienne du droit et de la politique, et sur le rapport entre le droit et la lutte, social, disons, qui semble être au principe de sa transformation. Alors, je le ferai en croisant donc deux axes thématiques et problématiques du livre. D'une part, l'axe de la définition du droit dans son irréductibilité aux politiques, qui est un aspect évidemment frappant, à partir notamment de certaines pages où Kojève reprend et, me semble-t-il, discute implicitement une certaine compréhension du politique élaborée par Carl Schmitt. Au fond, voilà, je pense qu'on peut parler d'une démarcation, car en un sens, les positions de Kojève sont assez diamétralement opposées à celles de Schmitt, même s'il reprend et, en un sens, entérine la compréhension schmittienne du politique à partir de la catégorie ami et ennemi. Mais ce qu'il oppose, je crois, ça tient pour une bonne part à l'inspiration à la fois hegelienne et, une sorte résolument tournée vers l'internationalisation du droit qui caractérise cet écrit. Tout cela, je crois, donne une autre tournure, aussi bien à sa reconstruction de l'histoire du droit qu'à ses attentes ou à ses pronostics quant à ses développements à venir. En effet, Kojève introduit ce qu'on peut appeler une dynamique de justice et de reconnaissance dans l'histoire du droit, y compris peut-être du droit international, en accordant une place décisive au conflit social et à la lutte pour la reconnaissance, tout en valorisant dans le droit l'impartialité du tiers. Mais alors, avant d'en venir à cette vision, j'aimerais un peu m'attarder sur le style d'approche, la méthode qui contribue à l'originalité et à l'ambition propre de l'esquisse d'une phénoménologie du droit, et qui, je pense, a aussi un effet direct sur la façon dont Kojève pense à la fois l'irréductibilité du droit par rapport à d'autres réalités, politiques, économiques, etc., et son déploiement historique. La méthode de Kojève, bien sûr, se réclame de la phénoménologie, mais on peut bien sûr se demander de quelle phénoménologie il s'agit. L'introduction à la lecture de Hegel, l'ouvrage construit par Raymond Queneau à partir des leçons de Kojève, était une exposition, interprétation de la phénoménologie de l'esprit, et on pourrait penser que Kojève a voulu appliquer une forme de phénoménologie inspirée essentiellement par Hegel au phénomène de l'autorité et du droit. De fait, si la phénoménologie hegelienne est la science de la manifestation de l'esprit à la conscience, la notion de l'autorité comme l'esquisse d'une phénoménologie du droit font place, ou même s'agissant de l'esquisse, sont bien consacrées à la façon dont, respectivement, le concept de l'autorité ou du droit se manifeste ou advient à la conscience et se donne à voir dans l'histoire. La thèse prend ici que le droit advient à la conscience lorsque celle-ci se place en tiers, on l'a vu, un tiers impartial et désintéressé, face à un conflit impliquant deux parties à aider. Ça correspond plus ou moins à la position du juge, ou au type du juge, à l'autorité de type juge dans la notion de l'autorité. Néanmoins, l'orientation et le sens que confère Kojève à sa phénoménologie portent aussi nettement la marque, outre de Hegel, d'un foyer intellectuel dont il a pris connaissance au début des années 20 en Allemagne, à savoir la phénoménologie de Husserl. Il y aurait aussi la méthode de détermination des types idéaux par Max Weber, qui est citée dans ses remarques introductives, remarques préliminaires, mais je laisse Weber de côté. Je crois, d'après ce que j'ai lu, que Kojève n'a pas suivi les cours de Husserl, mais on sait par les livres déposés à la Bibliothèque nationale, qu'il a annoté les éditions allemandes des idées directrices pour une phénoménologie et les méditations cartésiennes notamment. Et puis il a étudié, comme ça a été rappelé, avec Karl Jaspers, qui a été évidemment une médiation vers la phénoménologie comme vers la sociologie de Max Weber et sa méthode typologique.
Alors, en quoi la méthode de l'esquisse a-t-elle quelque chose d'une phénoménologie au sens husserlien ? Eh bien, en ce qu'elle cherche à dégager l'essence du droit, du phénomène du droit, l'essence du phénomène, l'eidos du droit, l'essence d'une chose donc qui a une existence empirique, et pour dégager l'essence d'une chose qui a une existence empirique, déjà Platon et Aristote, après lui, avaient noté que celle-ci ne peut être saisie que si l'on prend en compte son développement intégral depuis son germe jusqu'à son apogée, ou dans les catégories élaborées surtout par Aristote, depuis son être en puissance jusqu'à son être en acte, en dégageant aussi sa téléologie immanente. Appliquer un phénomène historique comme le droit, Kojève estime donc que chercher à en saisir l'essence implique de prendre en considération le droit depuis ses formes embryonnaires, où il est en puissance, jusqu'à son être en acte achevé. Mais évidemment, la question c'est en quoi consiste l'achèvement, le télos ou l'entéléki du droit ? Est-ce que la forme en acte, c'est la forme étatique, ou bien est-ce que c'est l'extension universelle du droit ? Bon, il y a deux façons de penser l'être en acte du droit, peut-être. C'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est, alors qu'il avait déjà abordé dans ses cours sur Hegel, dès lors que nous sommes nous-mêmes des êtres historiques, comment pouvons-nous prétendre saisir le développement intégral, achevé, du phénomène du droit dans l'histoire, sauf à supposer l'histoire achevée, justement. Bon, c'était le coup de force méthodologique hegelien, en fond, c'est de dire, pour comprendre un phénomène historique, il faut penser l'histoire achevée, et comme ça, on peut se placer de manière à envisager sa totalité. Pour forger donc un savoir de l'histoire, il faut ou il faudrait penser ou imaginer ou postuler, bon, je laisse tout ça vert, que nous nous trouvons en un sens à la fin de l'histoire et que nous pouvons en récapituler le sens. Cette fin de l'histoire, selon le texte de Hegel, le texte sur Hegel, c'est plutôt une interprétation que j'ai faite de Hegel, la fin de l'histoire, c'est l'état universel et homogène qu'on pourrait donc discerner en puissance dans le monde actuel. Dans l'esquisse d'une phénoménologie du droit, Kojève reprend sans le développer ce thème hegelien, mais en l'infléchissant, il me semble, il suggère bien que cette perspective d'universalisation est à l'œuvre et est immanente au droit lui-même qui, note-t-il, page 187, tend à se propager de plus en plus. Le droit, en quelque sorte, en tant que tel, tend à se propager de plus en plus. Mais il note aussi que tout ce qu'il peut dire lui-même, de l'essence du droit a encore un caractère histoire, un caractère provisoire. Tout ce qu'il peut dire de l'essence du droit a encore un caractère provisoire tant que l'histoire du droit n'est pas achevée. Nous pouvons néanmoins déjà discerner un mouvement, une dialectique interne, une téléologie historique à l'œuvre dans l'histoire parcourue, et c'est ce qu'écrit Hegel, page 187, le droit tend vers le droit absolu de l'état universel et homogène. Donc on peut déjà discerner cette tendance. Le droit tend déjà vers le droit absolu de l'état universel et homogène. En acceptant ce caractère ouvert, mais travaillé par une téléologie que l'on peut d'ores et déjà dégager, Kojève, me semble-t-il, se rapproche bien expressément de la phénoménologie husserlienne de l'histoire, qui est une phénoménologie en quelque sorte ouverte, qui discerne un télos, mais qui ne se place pas lui-même déjà sur, disons, le point d'achèvement de la téléologie. Et cette méthode impliquera donc, comme le dit Kojève, de saisir l'histoire, l'essence du droit, puis de, en quelque sorte, la confronter cette essence à ses manifestations empiriques les plus variées, avec une méthode, dit-il, de va-et-vient, qui n'est pas sans évoquer la méthode en zigzag dont parle Husserl dans la crise des sciences européennes, qui consiste précisément toujours à passer entre l'idée et l'essence. Alors, j'ai procédé à ce rappel un peu long, mais il me semble que c'est important pour saisir ce qu'entend faire Kojève, y compris pour cette différence entre droit et politique, même si il aborde celle-ci en s'armant, en quelque sorte, d'une autre perspective qui est celle donc de dégager l'autonomie et la spécificité du droit, c'est le titre du chapitre 3 de la première partie, et de le dégager en essayant de voir donc de quoi le droit ne peut se passer. Donc c'est ce thème aussi de comprendre quelque chose sui generis, c'est-à-dire essayer de dégager quelque chose à partir de soi et en se posant la question des conditions de possibilité. Qu'est-ce que le droit suppose, présuppose, Et la question fait écho, je pense, à une autre question fameuse. Qu'est-ce que le politique ou la politique présuppose? Et donc, avant même l'introduction du couple de catégorie ami-ennemi, ce type d'interrogation fait écho au texte fameux de Carl Schmitt que Kojève cite directement, de mémoire visiblement, puisqu'il fait des fautes dans les deux cas, soit sur le titre, soit sur l'orthographe de l'auteur. Mais on voit qu'il connaissait ça très bien. Dans le concept de politique, comme on sait, Der Begriff des Politischen, donc Schmitt posait le problème du critère du politique, mais du politique, politischen comme adjectif, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une association quelconque d'hommes est peut-être dite politique, politisch. Et ce texte lui-même, devenu un classique controversé de la théorie politique, on peut le lire à l'origine comme l'élaboration d'un questionnement de juriste sur un problème même de jurisprudence. C'est-à-dire, un tribunal allemand avait eu à trancher la question de savoir si telle ou telle disposition s'appliquait à une association donnée, selon qu'on considérait que cette association était ou non politique. Si telle association est politique, on lui appliquera pas les mêmes dispositions que si elle est simplement confessionnelle ou autre. Mais à quoi reconnaît-on qu'un groupement d'hommes ou un regroupement d'hommes est politique? C'est dans ce cadre que Schmitt donc pose la question du critère du politique, se demande si on peut identifier tout simplement le politique à l'étatique. Et c'est ici qu'entre en jeu un raisonnement qu'on retrouve chez Kojève. Qu'est-ce qui suppose quoi? Qu'est-ce qui présuppose quoi? Avec l'idée, comme vous le savez, que pour Schmitt, on ne peut pas identifier une entité ou une instance à quelque chose dont elle est seulement une partie, ou à une réalité qui la présuppose elle-même. Donc on ne peut pas identifier le politique à l'étatique, estime Schmitt, parce que l'étatique suppose l'existence du politique. Pourquoi? Parce que pour l'État, Staat en allemand, State en anglais, Status en latin, comme son nom l'indique, l'État est un certain statut ou une certaine façon de fixer et de stabiliser un rapport entre des hommes ou des groupes. Donc c'est déjà une façon de stabiliser quelque chose qui est un groupement. Mais il y a d'autres modalités de groupement politique, de groupierung, de regroupement, qui peuvent revêtir un caractère politique sans être étatique, que ce soit un syndicat, un parti, une minorité ethnique qui veut s'affirmer comme peuple indépendant, faire sécession, etc., ou des forces transnationales qui, par exemple, prônent le dépérissement de l'État et sont néanmoins politiques, comme les partis communistes ou les anarchistes. Donc, d'où la réponse schmittienne, je résume bien sûr cet essai bien connu, mais c'est plutôt la relation ami-ennemi qui sera dégagée comme critère en tant qu'elle commande la formation de groupes qui se désignent réciproquement comme ennemis. Et ici, on a quelque chose de propre à la politique. Alors, Kojève reprend ou introduit cette catégorie ami-ennemi comme, je cite, page 203, catégorie spécifiquement politique, ou encore, même page, catégorie politique fondamentale, aux côtés d'une autre catégorie fondamentale, la catégorie gouvernant-gouverné. Alors je me demandais d'où elle venait, je me disais que c'était peut-être simplement d'Aristote, hein, c'est au fond une façon assez classique d'aborder la politique. Qui est gouvernant, qui est gouverné? Et au fond on peut classer les régimes selon la réponse, de savoir qui est gouvernant, qui est gouverné, avec la démocratie ou la politéia comme le régime où on est alternativement gouvernant et gouverné. Mais il y a peut-être Moscou, il y a peut-être d'autres sources. Reprenons en tout cas le fil, le droit suppose-t-il le politique au sens de l'étatique? Kojève a soulevé ce problème au paragraphe 22 et il y note « Beaucoup de théoriciens du droit pensent qu'il n'y a pas d'autre droit que le droit étatique. Pour eux, le droit est toujours une loi promulguée par l'État. » Je crois que ça a été cité tout à l'heure. Et si l'allusion n'était pas assez claire, Kojève précise donc en note, par exemple en Allemagne, Kelsen. C'est donc Kelsen qui apparaît ici comme le tenant de la thèse positiviste selon laquelle le droit est le droit de l'État. Et il faut observer, je crois que cette vision pour Kojève n'est pas fausse, à cela près qu'elle ne distingue pas entre ce qu'il appelle droit en acte et droit en puissance, donc distinction centrale et structurante dans l'esquisse. Si l'on pense que le droit réel n'est réel qu'en acte, et que ce que Kojève appelle la société autonome est un État, alors oui, il n'y a de droit qu'étatique. Mais il y a toutes sortes de règles de droit non étatiques, qu'elles soient antérieures à la formation des États, comme le droit coutumier, dans les sociétés anciennes ou dans des sociétés dites primitives, ce qu'évoque Kojève, hein, ou au sein d'un État, et il prend ici l'exemple des règles au sein d'une association sportive. Ce type de droit, estime-t-il, est réel, même si la forme achevée du droit, le droit en acte, et non plus en puissance, eh bien la forme consciente d'elle-même, posée statutairement par l'autorité habilitée à le faire, par l'État. Donc on voit ici cette distinction entre un droit réel, un droit réel en puissance, un droit réel en acte. Il faut introduire plusieurs sous-distinctions. On voit alors que le droit réel, si le droit réel en acte est le droit étatique, le droit en puissance, mais en un sens déjà réel, le droit peut être en puissance mais déjà réel, est plus étendu que le droit étatique. Et c'est évidemment important. Inversement, il y a, ça a été cité et je vais vite, donc il y a beaucoup de lois réelles étatiques qui sont politiques et non juridiques, avec les exemples plutôt au fond de lois symboliques. Il prend l'exemple du choix de la couleur d'un drapeau, il dit que si l'État prend une loi là-dessus, c'est une loi politique, mais pas une loi juridique, parce qu'elle ne rentre pas dans la définition, et qu'au fond c'est un acte, plutôt une décision politique. Alors, on voit par où Kojève s'écarte d'une position kelsénienne, ou positiviste, ou étatiste du droit, mais en quoi s'écarte-t-il de la réponse schmittienne? C'est ce que j'aimerais essayer de voir assez rapidement maintenant. Il me semble que la reprise de la catégorie ami-ennemi ne va pas sans un travail de distinction et de dissociation des deux éléments du couple conceptuel. Il est évident, affirme Schmitt, je crois que c'est toujours page 136, que la catégorie d'ennemi n'a rien à voir avec le droit, ni avec la justice. C'est une affirmation forte et étonnante, et éventuellement, il est évident que la catégorie d'ennemi n'a rien à voir avec le droit, ni avec la justice. Affirmation étonnante, surtout si on a en tête un ouvrage certes ultérieur de Schmitt, le Nomos de la Terre, qui fait une large place à la notion d'ennemi juste, de justus hostis, tel que l'a élaboré le justus gentium europeum, le droit des gens européens classique, par exemple, chez Vattel. Donc on peut dire que la catégorie d'ennemi a bien fait l'objet d'une élaboration juridique. Alors Kojève l'ignore-t-il? Certainement pas, dans la mesure où il évoque, page 204, la notion de guerre injuste, dont il souligne que l'humanité la connaît donc dans son aspect juridique, alors que, dit-il, elle serait un non-sens politique. L'idée de guerre injuste serait un non-sens politique. Donc là, ça travaille aussi de façon différente. Le débat implicite avec Schmitt se poursuit, puisque, dans le concept de politique, Schmitt affirmait que l'humanité n'était pas une catégorie politique, mais une catégorie morale. Alors, est-elle une catégorie juridique pour Schmitt? Non plus. Or, Kojève suggère ici que l'humanité intervient bien dans le champ juridique pour juger de la justice ou de l'injustice de la guerre, au plan juridique. Je ne m'attarde pas sur ce débat qui pourrait être poursuivi, et qui sera d'ailleurs poursuivi dans les faits, d'une certaine façon, entre Kojève et Schmitt, puisque, comme vous le savez, Kojève ira faire des conférences à l'invitation de Schmitt en 1955 à Düsseldorf, mais elles porteront sur un autre aspect qui est plutôt la question de la prise de terre et le colonialisme, mais je n'ai pas le temps d'en parler. En soutenant que la catégorie d'ennemi n'a rien à voir avec le droit, Kojève, de son côté, donc, ne se situe pas sur le terrain du fait, de l'histoire empirique du droit, mais d'un point de vue théorique ou phénoménologique, comme dégagement de l'essence, le droit peut se passer de la notion de l'ennemi, qui ne lui est pas essentielle. La notion d'ennemi n'est pas définitionnelle ou essentielle pour le droit. Le droit, écrit-il, peut fort bien se passer d'un État qui s'oppose à des ennemis. Il peut prospérer là où il n'y a pas, où il n'y a plus d'ennemis extérieurs du tout. Page 204. La question n'est donc pas de savoir si le droit peut s'emparer de la notion d'ennemi et en fournir une élaboration juridique. Elle est de savoir si la notion d'ennemi est constitutive du droit. Et tel n'est pas le cas. Avec des exemples de formes de droit qui ne font pas intervenir l'ennemi, qu'il s'agisse du droit privé, du droit de la famille, etc., qui supposent sans doute des situations de litige, mais qui peuvent se régler pacifiquement et peut-être justement dans le cadre d'une certaine amitié. Donc peut-être que le droit suppose une forme d'amitié ou de citoyenneté qui est aussi construite par Kojève dans ses pages. Alors certes, le droit interne s'applique à ce que Kojève désigne comme un groupe exclusif qui peut être et qui est par excellence un État, lequel a forcément des ennemis en puissance. Mais il y a dans le droit comme tel une dynamique qui dépasse l'État, suggère Kojève, justement parce que le droit n'est pas lié à cette structure ami-ennemi qui caractérise le politique et l'État souverain. Le droit donc tend de lui-même à une universalisation, et c'est là, je pense, une thèse forte du livre en opposition à Schmitt, qui présente toujours le droit, le vrai droit, disons, comme nomos, toujours lié à une prise ou à un lieu particulier, à un mixte, comme il dit, d'ordnung et d'ortung, d'ordonnancement d'un lieu et et d'ordonnancement, pardon, et de localisation, hein, d'ordre et de lieu. Si bien que la dynamique d'universalisation du droit sera décrite par le nationaliste Schmitt comme Entortung, donc perte du lieu, déterritorialisation favorable aux puissances de l'économie, etc. Alors que Kojève essaye ici d'accompagner, alors est-ce que c'est dans une perspective socialiste, est-ce que c'est dans une perspective d'universalisation dont le contenu reste indéterminé, mais en tout cas il me semble qu'il essaye d'accompagner quelque chose comme ou d'anticiper la construction d'un droit au-delà des États-nations, d'un droit peut-être au-delà de la situation de l'Europe occupée par la puissance allemande, et il pointe le fait que la dynamique d'internationalisation du droit ne s'arrêtera pas, tandis que la guerre est décrite par lui comme une situation ajuridique. Donc la guerre est ajuridique, mais le droit, lui, ne s'arrêtera pas. Donc si on veut récapituler et avancer, on peut dire que le partage ennemi-ami-ami-ennemi est bien constitutif du politique, et cela que Kojève l'accorde à Schmitt, et il utilise Schmitt pour le penser, mais pour qu'il y ait possibilité du droit, il faut que les justiciables ou l'un d'eux ne soient pas ennemis, c'est ce qu'il précise, page 203. Loin de naître de la politique, le droit ne peut se développer que dans la neutralité politique, ça avait été cité ce matin, dans un domaine soustrait à la politique. Donc Kojève pense le droit essentiellement, comme on l'a vu, à partir de la figure du tiers impartial ou désintéressé. Il y a droit, en un sens, quand on dépasse la simple lutte entre deux entités, y compris la lutte à mort thématisée par Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, et quand un tiers apparaît qui, en un sens, ne participe pas à la lutte, mais peut se poser en arbitre. Néanmoins, il faut ajouter, je crois, que le droit s'alimente aux luttes, en un sens, l'histoire du droit. Le droit s'alimente aux luttes entre deux parties, le droit, qui est certes une structure tierce, s'alimente à une certaine dualité polémique. Ainsi, selon Kojève, l'histoire du droit progresse-t-elle à travers et par les luttes pour la reconnaissance impulsées par le désir de justice. C'est le désir de justice qui est moteur de l'histoire du droit et qui inspire les conflits entre maître et esclave, conflits cardinaux en quelque sorte, qui se transforment dans le conflit entre l'aristocratie et la bourgeoisie, puis se déplacent encore dans le conflit entre bourgeoisie et prolétariat. Et même, au fond, c'est toute l'histoire humaine que Kojève proposait de relire dans l'introduction à la lecture de Hegel, sous ce prisme de la lutte pour la reconnaissance, avec des successions sociales et historiques différentes. Les libérations, les révolutions, les réformes elles-mêmes égalisent souvent les droits entre les anciens maîtres et les anciens esclaves, en une succession de synthèses, entre ce que Kojève appelle ici « droit égalitaire ». Alors, le droit égalitaire, évidemment, est d'origine aristocratique l'esquisse, parce que ce sont les maîtres qui se reconnaissent entre eux, et le droit d'équivalence, qui est plutôt d'origine bourgeoise et qui est particularisé selon les formes de la société. Et la société étant pensée avec Hegel comme le règne par excellence de la différence et de l'individualité, par opposition à l'État qui est le règne de l'universalité abstraite. Alors, en poussant un peu, on pourrait presque jouer d'un écho ici avec Axel Honneth et étendre cette idée à l'ensemble des luttes pour la reconnaissance qui suscitent la demande de nouveaux droits, droits des sujets lésés ou minorisés, des femmes, des homosexuels, des minorités religieuses ou ethniques, des colonisés, des immigrés, etc. Cette lecture peut-être gauchisante de Kojève me semble néanmoins possible puisqu'on lit page 318 « Après avoir découvert l'injustice de l'inégalité politique des hommes, on a découvert l'injustice de l'inégalité entre les hommes et les femmes, et après avoir découvert l'injustice de l'inégalité politique, on découvre celle de l'inégalité sociale ou économique. » Donc on voit vraiment ici cette dynamique de l'égalité qui pousse toujours plus loin à reconnaître de nouveaux sujets, l'égalité entre hommes et femmes, puis à aller plus loin que l'égalité formelle, bon là un schéma assez marxiste classique, vers l'égalité sociale, vers l'égalité réelle, économique. On peut bien reconnaître d'ailleurs avec Kojève que le droit ne cesse de s'étendre, au fond c'est une chose qu'il constate, et Kojève nous invite à penser cette dynamique, je crois, positivement, même si ses propres remarques dans l'esquisse sur le droit des homosexuels ou de telles minorités politiques comme les communistes dans un État non communiste semblent plutôt en retrait par rapport à la reconnaissance ponctuelle de cette dynamique, mais c'est aussi un écrit descriptif. Donc évidemment, toujours cette question qu'est-ce qu'une phénoménologie du droit peut accentuer et peut, disons, suggérer à titre normatif. En tout cas, on pourrait penser quelque chose comme une extension de l'amitié dans la vision kojèvienne, sous la forme d'une citoyenneté toujours plus étendue, toujours plus inclusive. L'horizon de la lutte est bien, comme dans l'introduction à la lecture de Hegel, la réconciliation universelle, mais ici sous l'égide du droit. Est-ce que dans cette configuration, la politique, déterminée par le rapport ami-ennemi, est vouée à s'éteindre, à disparaître? Est-ce que la conclusion de l'extension du droit, c'est la disparition de la politique? C'est évidemment la crainte qu'exprime Carl Schmitt à Kojève dans une lettre du 7 juin 1955, en mettant en cause l'effacement programmé de la figure de l'ennemi. Dans la perspective hegélienne, qui est la vôtre, suggère Schmitt à Kojève, l'ennemi est soit une étape transitoire nécessaire de la négation, l'ennemi devient une étape transitoire de la négation, soit vide et sans essence. Et on sait que pour Schmitt, bien sûr, cette disparition de l'ennemi est l'illusion post-politique, en quelque sorte, l'illusion post-politique progressiste par excellence, partagée par le libéralisme, le communisme et l'anarchisme, qui sont toutes des pensées qui veulent, au fond, la fin de la mort du Léviathan, etc. Kojève répond le 11 juillet 55, « L'histoire, majuscule, est l'histoire de l'hostilité entre les hommes. » Ça, c'est le présupposé. L'histoire est l'histoire de l'hostilité entre les hommes, mais, suggère-t-il, rien ne dit que cette hostilité serait vouée à être éternelle. Si l'histoire est sérieuse, elle ne peut pas être un éternel piétinement sur place ou une roue, elle doit avancer vers une résolution, vers une fin de l'histoire, où l'hostilité serait surmontée et où les conflits, inévitables même entre amis, seront réglés pacifiquement. Donc, je crois que dans l'esquisse, j'ai encore quelques minutes,
oui,
oui ça va. Dans l'esquisse, cette fin de l'histoire, cette unité post-politique du monde dans sous l'égide du droit, est une fin qu'on peut envisager, qu'on peut projeter, qu'on peut imaginer, qu'on peut peut-être même anticiper dès à présent, fin qui était cauchemardesque ou antéchristique pour Schmitt, parce que ça prétend réaliser le paradis sur terre, donc ça nie le péché originel, si on veut, mais qui est plutôt heureuse pour Kojève, même si, comme on sait, elle a aussi sa version pour lui nihiliste et dérisoire, qui est celle du retour à l'animalité. Si c'est le désir de reconnaissance et la lutte qui est anthropogène, s'il n'y a plus cette lutte pour la reconnaissance et donc en un sens cette hostilité, l'humanité sans hostilité retombe dans l'animalité. Et que Jeff dit, bah oui, il faut peut-être l'accepter. Et il y a ces pages un peu désinvoltes dans l'introduction à la lecture de Hegel, où il fait des variations sur le thème de la fin de l'histoire avec le Japon comme figure un peu, disons, nihiliste d'une fin de l'histoire où on se consacre au concours du plus beau bouquet, à des choses comme ça. Et donc, voilà. Mais dans l'esquisse d'une phénoménologie du droit, on n'a pas ce ton un petit peu désinvolte, on a plutôt la perspective, me semble-t-il, assez sérieuse, de la construction d'un droit inter- et supranational, auquel d'ailleurs Kojève entendra œuvrer après la catastrophe des deux guerres mondiales. Certes, et pour conclure, d'un point de vue réaliste, on peut être sceptique quant à l'avènement de cet État universel et homogène qui aurait dépassé toute hostilité ou négativité. À supposer d'ailleurs qu'un tel État soit souhaitable, ce qui est un autre problème qu'on pourrait d'ailleurs discuter avec Kant, lorsque Kant a mis en question l'idée de l'État mondial et a plutôt privilégié l'idée d'une fédération d'États libres, etc. Mais bon, en tout cas, ce thème d'un État, en quelque sorte, d'une fin de l'histoire qui aurait dépassé les conflits essentiels a été, comme on sait, ce thème a été repris récemment par Fukuyama, reprenant le discours hegélo-kojévien en l'appliquant au triomphe sans partage de la démocratie libérale. Et bien sûr, cette thèse a paru se heurter assez vite à la résurgence d'une hostilité absolue, par exemple celle de l'islamisme radical. Aujourd'hui, de même, on ne semble pas prêt de voir se résorber au moins des empires antagonistes, mettons les États-Unis, la Russie, la Chine, etc. On est donc tenté de juger plus crédible la vision schmittienne d'un pluriversum irréductible. Schmitt oppose l'universum et le rêve d'une unité du monde à l'idée d'un pluriversum irréductible, c'est d'un univers irréductiblement pluriel organisé autour de grands centres Donc c'est le nomos de la Terre qui s'organise autour de centres qui rayonnent sur des espaces périphériques. Et au fond, ces grands espaces qui dominent des espaces périphériques et qui sont pluriels paraissent être un tableau plus réaliste du droit international ou de la situation internationale que celle que projetait Kojève d'un État mondial, universel et homogène. Mais évidemment, tout dépend du statut que l'on donne à cette vision, à cette téléologie et à la façon d'en repérer, disons, une dynamique qui serait à l'œuvre dès aujourd'hui et qui tendrait vers cette universalisation. Et on doit constater le développement de multiples formes internationales et supranationales d'arbitrage, d'internationalisation des normes juridiques, une certaine mondialisation du droit, comme ça a été écrit et documenté, et d'autre part, peut-être, pour enrichir le tableau, un certain déclin de la guerre interétatique au profit soit de guerres de basse intensité, soit de coalitions internationales, plus ou moins mandatées par la communauté internationale. Donc il y a aussi tout de même des éléments, même d'un point de vue, je dirais, réaliste, qui montrent que la construction d'un droit au-delà des États souverains ou en tout cas qui tente de s'appuyer sur une forme d'internationalisation et de reconnaissance de normes transnationales progresse également. Mais on doit bien constater que nous faisons face donc plutôt à un processus, justement à un droit international en transition, comme le disait d'ailleurs Habermas lorsqu'il analysait les interventions internationales, entre guillemets, au Kosovo par exemple, un droit international en transition où le principe de souveraineté des États-nations continue d'exister mais désabsolutisé et où la construction d'un droit sous l'égide de la dite communauté internationale transforme effectivement la vision et les justifications et la pratique même de la guerre. Donc il y a tout de même à l'œuvre des choses qu'il s'agit aussi ici de penser dans la configuration internationale. Et d'autre part, on doit reconnaître aussi des dynamiques de reconnaissance démocratique égalitaire qui continuent d'induire des transformations du droit et d'induire aussi éventuellement des solidarités internationales, en même temps d'ailleurs qu'elles suscitent des conflits internes, des conflits idéologiques ou des conflits de normes internes aux sociétés. Et donc, pour toutes ces raisons, il me semble que la phénoménologie du droit de Kojève peut nous aider encore à penser le présent, et elle offre aussi un heureux et sans doute nécessaire contrefeu à la critique schmittienne du tournant humanitaire du droit international.